vous allez comprendre pourquoi je mets Aux Armes, etc. et Serge Gainsbourg, évidemment, la version sulfureuse de la Marseillaise, suivie de, évidemment, l'émission de Serge Tizi sur les origines de la Révolution française. Tout a un sens dans la vie, mon ami. Allez, Serge Gainsbourg, suivi de l'émission de Serge Tizi, origine de la Révolution française. 20e émission de Serge Tizi.
Bonjour chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral, bonjour à vous les lycéens, bonjour aussi à tous les confinés qui vont donc écouter cette émission sur les causes de la Révolution française en 1789. Alors nous allons tout d'abord écouter un extrait tiré du film La Révolution française, tourné par Robert Enrico en 1989.
Des membres du clergé ont rejoint le tiers-état, sire. Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale.
En se passant de l'accord de votre majesté.
Exactement ce que j'avais prédit.
Mon frère. La meilleure solution, monsieur Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales.
Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup...
L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire.
Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi.
On nous empêche d'entrer, ordre du roi.
C'est un outrage!
Ouais. Au jeu de paume!
Oui. Ouais, il y a raison, au jeu de paume!
Au vestiaire, messieurs.
Bailly, à vous la parole. Silence. Silence. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
Cet extrait qui s'achève par la célèbre phrase de Mirabeau montre bien la fracture entre le roi de France, Louis XVI, qui se dit encore le seul représentant de son peuple par le droit monarchique et divin, et les députés du tiers-état et certains membres du clergé et de la noblesse qui représentent eux désormais la nation. En effet, le serment du jeu de paume le 20 juin 1789 à Versailles est l'acte premier de la Révolution française. Pourquoi ? Mais parce que ces députés se sont autoconstitués en Assemblée nationale, qui a donc remplacé le bon désir du roi par la volonté du peuple incarnée par ses représentants. Celle-ci ne va pas seulement... Cette révolution française ne va pas seulement renverser un régime politique, mais remettre en question l'ensemble de la société et de ses principes qui régissaient le royaume de France, mais aussi le monde à partir de 1789. La prise de la Bastille du 14 juillet, la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges à la naissance et le 25 août la déclaration des droits de l'homme et du citoyen confirment le caractère populaire et irrémédiable de ces événements et donc le début de la Révolution. Comment expliquer l'effondrement de l'ancien régime. Tout d'abord, il y a des raisons économiques. Le commerce fonctionne bien quand il s'agit du commerce extérieur. J'en ai parlé hier quand je parlais de Boston, mais n'oublions pas que 5 grands ports sont particulièrement importants en France. En effet, nous avons Lorient, Nantes, Bordeaux, Rouen qui sont particulièrement actifs dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire qui échange des pacotilles contre des esclaves à Gorée, au Sénégal, pour les vendre ensuite aux Antilles, aux Amériques. Là, les esclaves travaillent dans des plantations dans des conditions épouvantables. Le sucre de canne, l'indigo, le café, le cacao sont envoyés dans les ports métropolitains. Les bénéfices sont considérables et enrichissent le royaume. Le mouvement abolitionniste, les Amis des Noirs, demande la fin de l'esclavage et de la traite au nom de l'humanité, mais les bénéfices sont tels que, eh bien, il n'y a aucune loi avant celle de 1793. L'agriculture connaît, elle, des crises du fait qu'elle est plus sujette aux aléas météorologiques. Les mauvaises récoltes dues à des pluies d'été font monter les prix du blé. Or, le pain est l'aliment de base de la nourriture populaire. L'État est sévèrement endetté. Là est la question centrale pour la monarchie. Cet endettement date du règne de Louis XV et Louis XVI, en fait, souhaite amoindrir ce déficit. Il mène des politiques, il résorbe un peu les dépenses de la cour, et il nomme différents ministres des Finances, que ce soit Turgot, que ce soit Necker, que ce soit ensuite Calonne, tous réclament, en fait, une refonte de l'imposition. Turgot souhaiterait mettre un impôt foncier, y compris pour la noblesse et le clergé, avec des assemblées à différents échelons locales, nationales, pour co-gérer les affaires publiques. C'est un refus dû notamment à une partie de la noblesse qui refuse de payer les impôts. Necker, un roturier, genevois, protestant de plus, devient directeur général des finances. Il ne peut pas véritablement devenir ministre, étant donné que à ce moment-là, les protestants ne sont toujours pas reconnu dans le royaume de France. Et Necker, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que pour financer la guerre à laquelle les Français vont participer aux États-Unis, eh bien, il faut créer un emprunt et la loterie afin de financer cette guerre. Mais tout ceci ne comble pas, eh bien, le déficit qui s'accentue du fait de la participation française à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1786, Calonne, donc un autre ministre des Finances, dirons-nous, propose l'égalité devant l'impôt et la création d'assemblées de propriétaires. Et une assemblée de notables est convoquée à Versailles en 1787. Mais le projet de Calonne indispose les propriétaires exemptés fiscaux, que ce soit des grands propriétaires ecclésiastiques ou des grands propriétaires de nobles, voire même un certain nombre de grands propriétaires bourgeois, puisque les bourgeois possédaient aussi des terres en extérieur. Et c'est un échec, et Calonne doit démissionner à la demande notamment de la reine. Et en 1788, une assemblée des trois ordres du Dauphiné se réunit non loin de Grenoble, à Vizille, et réclame des états généraux pour statuer de l'avenir du royaume et notamment d'une juste répartition de la fiscalité. La crise est telle que le roi Louis XVI n'a plus le choix. Il convoque donc des états généraux à partir de mai 1789. Et pour mettre ces états généraux en place, eh bien, il fait circuler à travers tous les villages et toutes les villes du royaume ce qu'on appelle des cahiers de doléances. Et ces cahiers de doléances sont remplis en fonction de l'ordre auquel vous appartenez. Si vous appartenez à l'ordre de la noblesse, vous remplissez les cahiers des ordres de la noblesse. Si vous appartenez à celui du clergé, vous remplissez les cahiers des ordres du clergé. Si vous appartenez au tiers-état, c'est-à-dire les paysans, les artisans, les commerçants, les professions libérales et tout ce qui n'est pas tout ce qui appartient à la roture, hein, comme on appelait ça à l'époque, et qui n'appartient pas au clergé, eh bien vous appartenez donc au tiers état. Donc et en même temps qu'il fait ça, en 1788, eh bien l'État ne peut plus rien financer et donc l'État se déclare en banqueroute, c'est-à-dire que l'État abolit sa dette le 26 août 1780. 88. Les états généraux se préparent dans tous les villages du royaume, donc, et ils se réunissent selon les trois ordres de l'ancien régime, c'est-à-dire noblesse, clergé, tiers-état. S'il n'y a pas obligatoirement de communauté d'ordre, faisons bien attention. Toute la noblesse et tout le clergé ne sont pas pour le maintien des privilèges à la naissance. La haute noblesse et le haut clergé sont favorables aux privilèges et à leur maintien. C'est par exemple le cas du comte d'Artois. C'est par exemple aussi le cas de l'évêque de Sisteron, par exemple. La noblesse de province, les petits nobles, ce qu'on appelle les obreaux, eux, ou le bas clergé, qui est souvent issu soit d'une petite noblesse appauvrie, soit d'une petite classe bourgeoise dans laquelle, bourgeoisie dans laquelle, on essaie de faire en sorte que le second de la lignée puisse devenir prêtre. C'est toujours bien d'avoir un prêtre dans sa famille. Ces petites charges, donc le clergé ou la noblesse de province, sont plutôt favorables à l'égalité fiscale. Surtout que quand on dit que, par exemple, que la noblesse ne paye pas d'impôts, alors c'est pas tout à fait vrai. Et c'est pas non plus tout à fait vrai que la noblesse ne travaille pas. Vous avez par exemple en Bretagne une noblesse qui peut se retirer de la noblesse pendant un temps, faire un emploi roturier, et puis revenir à la noblesse une fois la fortune faite. C'est ce qui explique par exemple qu'un certain nombre de Bretons partiront aux Antilles faire fortune, et puis reviendront ensuite en Bretagne une fois fortune faite pour reconstituer leur domaine ou rétablir leur château. Et n'oublions pas aussi une chose, c'est que vous avez un appauvrissement aussi de la noblesse à l'époque, du fait des jeux. J'en avais déjà parlé dans une émission précédente, mais l'une des grandes causes de la disparition des châteaux, alors les châteaux forts, une partie c'est Louis XIV qui les a tous détruites parce qu'il fallait plus de châteaux et de fortifications dans le royaume, mis à part celles qui convenaient au roi de France, mais en plus de ça, les vieux châteaux médiévaux avaient tous été quasiment tous démontés, vendus pierre par pierre, à qui ? À des paysans ou à des bourgeois à côté pour qu'ils reconstruisent leur ville, leur village. Alors pourquoi est-ce que les nobles se dessaisissaient de ces châteaux et les démontaient eux-mêmes ? Parce qu'ils jouaient tellement au jeu qu'à un moment donné, il fallait bien payer. Pour payer, on détruit le château de ses ancêtres. Ce qui explique aussi la disparition des châteaux. Et c'est pas la Révolution qui a détruit le plus grand nombre de châteaux en France. Il faut bien rappeler ça, c'est bien avant que ça s'est passé. Donc cette noblesse, rejoint en fait le tiers-état qui lui demandait quoi ? Lui, il n'était rien, comme dirait la BCIS, et il a demandé à devenir tout, c'est-à-dire à avoir cette égalité. Pourquoi ? Parce que le tiers-état, il est inspiré par ce qui se passe d'une part en Angleterre, il est inspiré aussi surtout par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, voir des roturiers gouverner, c'est quand même mieux que, et c'est quand même plus visible et plus mobilisateur que de rester l'arme au pied. Donc ce tiers état a une revendication. Il a une revendication donc de pouvoir aussi co-gérer les affaires de la nation. Et d'autant plus que une partie de ce tiers état, notamment la bourgeoisie, la riche bourgeoisie, avait quand même encore une façon de devenir noble. C'était d'acheter une charge, mais aussi de devenir officier. Et à la fin de Louis XVI, a accepté une fermeture de ce corps des officiers aux seuls nobles à partir de 1786. Donc vous ne pouvez plus, si vous êtes roturier, devenir officier dans l'armée française, à moins de prouver 4 générations du côté paternel qui soit noble. Donc dans tous ces cahiers de doléances, le roi est respecté, la personne du roi et n'est pas remise en question, ni son pouvoir d'ailleurs. Personne n'est pour l'abolition de la monarchie. Il n'y a pas de partisans avérés de la République. Alors bien sûr, on peut trouver un écrit de Rétif de la Bretonne, un philosophe de ces années-là qui réclame la République. Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga de la pensée à l'époque. La pensée plus à faire avoir une monarchie parce qu'on aime bien le roi, tout compte fait. C'est un homme qui est quand même respecté, même si on a beaucoup beaucoup raillé sur sa masculinité à un moment donné, mais on considère que c'est un bon roi. En plus, c'est un roi qui a encore ce prestige d'avoir participé ou d'avoir fait participer la France à cette guerre d'indépendance. Il est soutenu par des nobles libéraux comme Lafayette. Donc personne ne peut croire que cet homme ne respectera pas une volonté de la nation. Donc cette société d'ordre est remise en question partout. Elle est remise en question dans des caricatures, elle est remise en question dans les champs, elle est remise en question eh bien quand des paysans par exemple s'attaquent par exemple à l'évêque de Sisteron au passage à Manosque où ben son cortège et lui-même sont lapidés par la foule mais qui souffre de la faim, qui souffre des impôts et qui ne supporte plus cet évêque qui lui comme charité chrétienne ne connaît que la levée d'impôts et le fait de ne pas en payer lui-même. Nous avons dans cette société des vecteurs d'idées. On parle de la Révolution américaine, on parle de l'esprit des Lumières, on parle de ces nouvelles revendications, notamment dans des pièces. Et vous avez une pièce qui est magistrale et qui annonce la Révolution. Et souvent, les révolutionnaires se sont même servis de cette pièce. C'est le mariage de Figaro de Beaumarchais qui dénonce la société d'ordre, le cynisme de la société d'Ancien Régime et de sa justice et donc cette monarchie absolue et les principes de cette société. Et nous allons écouter un extrait de ce mariage du Figaro et notamment l'acte 5, scène 3.
Femme, femme, créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant. Le perfide. Et moi, comme un benêt ? Non. Monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas ! Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Et qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître. Et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez shooter ? On vient, c'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable. Et me voilà, faisant le saut métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussais-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mers du Sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où
se plaint de ce que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui vous meurtrisse l'omoplate en vous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.
Comme vous l'avez bien entendu, il y a bien ici la liste des griefs contre la monarchie absolue et la société d'ordre. Il y a une diatribe contre l'inégalité sociale, non pas sur un travail ou sur un mérite de connaissance, mais sur le seul droit de naître ou de ne pas naître noble. C'est la première partie. Ensuite, nous avons un mot caché, puisqu'il prend le cas des mahométans, mais n'oublions pas qu'à l'époque, l'Église catholique, c'est véritablement elle qui est en cause, il prend le problème de la censure du droit d'expression par les religions et non au nom du blasphème. Et je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, quand j'ai fait l'émission sur le siècle des Lumières, et bien sur ce qui se passe avec le Chevalier de la Barre ou l'affaire Calas. Nous avons l'interdiction de publier sous peine d'emprisonnement. Et nous avons donc Mirabeau, par exemple, qui pour un certain nombre de pamphlets anti-monarchique, anti-inégalité sociale ou fiscale, eh bien, se retrouve embastillé, non pas à la Bastille, mais à la tour de Vincennes. Ce refus du roi d'entendre non pas la plainte, parce qu'il connaît les plaintes, il sait pertinemment où on est son royaume, il a des rapports, ce n'est pas un être dénué de sens critique, il sait très bien ce qu'il y a, mais il n'arrive pas à écouter et à entendre les revendications. La société d'Ancien Régime est morte de ne pas avoir compris les changements espérés dans les salons philosophiques, les loges, les tavernes, les marchés. La monarchie absolue de droit divin est tombée, non pas car Louis XVI n'était pas au courant, c'est un roi des Lumières, mais car il a manqué ce que le révolutionnaire Danton demandait aux Français en 1792, c'est-à-dire de l'audace. Et nous terminerons cette émission par le groupe Triane, la chanson de Plo Denbon. Au revoir, à bientôt.
Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris.
Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris.
Que je sommes déjà caporal et serons bientôt général.
Que je sommes déjà caporal et nous serons bientôt général.
À la bataille, je combattions les ennemis de la nation.
À la bataille, je combattions les ennemis de la nation.
Et tous ceux qui se présentions un grand coup de sable les émondions.
Et tous ceux qui se présentions un grand coup de sable les émondions.
Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé.
Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qu'il m'a nommé.
C'est son quartier, c'est point mon nom. J'ai dit je m'appelle Pelot d'Enbon.
C'est son quartier. c'est quoi mon nom? Je lui dis, je m'appelle Pelot Edmond.
Il a tiré un bio ruban, mais je ne sais quoi, au bout d'argent.
Il a tiré un bio ruban, mais je ne sais quoi, au bout d'argent.
Il me dit, écoute ça, si ton ami est combat toujours l'ennemi.
Il me dit, écoute ça, si ton ami est combat toujours l'ennemi.
Précieux pour que les autres m'appellent monsieur.
Ce soit quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur.
Les bouts de l'humain à nos chapiots quand ils veulent compter au pelot.
Les bouts de l'humain à nos chapiots quand ils veulent compter au pelot.
Je vous enverrai ce bio ruban.
Si je meurs en combattant, je vous enverrai ce bio ruban.
Et vous le voudrez à votre fusion en souvenir du gobelot.
Et vous le voudrez à votre fusion en souvenir du gobelot.
Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien.
Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien.